Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture, du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, municipal, les partis sont-ils encore les bienvenus? L'organisation des élections municipales de 2020 a été successivement marquée par la crainte que beaucoup d'élus, découragés par l'ampleur de la tâche, ne se représentent pas. Puis le débat, ensuite, à la suite de la circulaire Castaner, s'est orienté sur la représentativité politique des listes dans des petites villes rurales en particulier. Et désormais, le débat est axé sur la multiplication de listes électorales, gommant soigneusement leur appartenance partisane et leur préférant des étiquettes, par exemple pour se rebaptiser liste citoyenne. Toute la semaine, France Culture va aborder dans différents programmes les questions et les enjeux culturels de ces élections municipales. Le temps du débat se trouve donc en direct d'une région où, comme dans les autres, on fleurit ces listes sans étiquette. Cette région, c'est l'Alsace. Nous sommes en direct de France Bleu Alsace à Strasbourg, que nous remercions grandement de nous accueillir en compagnie de nos trois invités. Vincent Béal est sociologue et politiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg, chercheur au laboratoire SAGE, spécialiste de la sociologie de Saint-Étienne. Ça n'est pas en Alsace, mais on va en parler. Et vous avez publié d'ailleurs sur cette sociologie cette année un ouvrage aux éditions de la Découverte, mais aussi des villes en déclin et de leur politisation. Raphaël Chalier, bonsoir. Vous êtes sociologue, politiste au laboratoire Crespa et vous avez travaillé sur un bourg rural de Lorraine et sur la place que s'y sont fait les Gilets jaunes pendant le mouvement des Gilets jaunes. On en parlera avec vous. Et enfin, Sébastien Michon, vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes membre du laboratoire SAGE, le même laboratoire que celui de Vincent Béal. Et vous êtes donc à Strasbourg et spécialiste de la professionnalisation en politique. Alors d'abord, il faut expliquer à nos auditeurs que pour leur part, eh bien, ils pourraient s'étonner de ne pas avoir d'hommes ou de femmes politiques à ce micro ce soir, mais la législation, les règles du CSA sont difficiles à l'orée des municipales, à un mois des municipales, parce qu'elles nous obligeraient à prendre tous les candidats, par exemple, d'une même municipalité, si nous en prenions un seul. Donc nous avons choisi de vous avoir, jeunes chercheurs, donc autour de ces questions de politique. Est-ce que cette question sur la place des listes partisanes ou des listes non partisane dans ces élections municipales est une question qui mérite d'être débattue. Peut-être Sébastien Michon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une question importante ou est-ce que c'est la loupe journalistique qui grossit cette question-là?
Dans ces élections municipales, on voit très clairement un affichage de listes citoyennes, écologistes et citoyennes, de listes qui mettent en avant une forte présence de la société civile, de personnes issues de la société civile, de personnes non encartées et finalement de novices en politique. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est grossi par la loupe journalistique, c'est vraiment quelque chose qui est un phénomène massif, un phénomène d'affichage. Et donc derrière, il y a la volonté d'incarner un renouvellement de la politique et de se mettre à distance des partis politiques, des professionnels de la politique, de la professionnalisation de la politique. Et donc, ce qui va de pair avec un certain effacement des logos, ou en tout cas, on ne les met pas en avant, du manque de référence, ou en tout cas, on ne met pas trop de référence aux partis politiques sur les sites de campagne, sur les professions de foi. Et finalement, si on resitue ça dans une conjoncture un peu plus large, on se dit que c'est relativement logique et assez peu étonnant, ne serait-ce que de se remémorer la campagne de 2017, puisque Emmanuel Macron,
présidentielle.
Voilà, présidentielle, législative, Emmanuel Macron a structuré sa campagne sur un nécessaire renouvellement de la politique, d'une crise de la politique et finalement d'une critique de la professionnalisation de la politique. Et c'était aussi finalement, une autre conclusion, pour prendre un autre point d'observation, le mouvement des Gilets jaunes, puisque une des conclusions était précisément qu'un ensemble de personnes ne se sentait pas représenté en politique.
Vincent Béal, est-ce que vous avez la même analyse en tant que sociologue et politiste? Je rappelle que vos questions se posent sur des villes importantes qui sont parfois des villes en déclin, comme la ville de Saint-Étienne. Est-ce que cette question est la clôture d'une période qui aurait été une période de municipale très importante, avec une politisation très importante, en particulier à partir des années 60-70, avec les listes des partis socialistes qui conquerront dans les années 70 beaucoup beaucoup de villes un peu partout en France à la fin des années 70, et donc avec cette idée qu'on ne pouvait pas s'avancer autrement qu'avec l'étiquette d'un parti politique, Vincent Béal.
Oui, alors j'ai à rejoindre ce que vient de dire Sébastien sur le brouillage du paysage électoral lors de ce scrutin. Avec ces candidats qui invisibilisent leur appartenance à des partis. Je pense que c'est une situation qui est nouvelle par son ampleur, mais que c'est une situation qui n'est pas totalement inédite. Et si on replace effectivement cette évolution dans une tendance un peu plus large, on a eu pendant longtemps une sorte de nationalisation des élections locales, hein, avec des élections qui étaient de plus en plus arrimées à des enjeux politiques nationaux.
On se souvient des cartes dans des journaux comme Le Monde, par exemple, qui représentaient soit la France en rose, soit en bleu, selon qu'elle était représentée par l'UMP, par le Parti socialiste, par exemple, dans les années 90.
Exactement. Et donc, on avait des partis qui avaient une prise de plus en plus forte sur ces scrutins, en termes de contrôle des investitures, en termes de construction d'une ligne aussi pour les candidats. Et quand on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers scrutins, 2008-2014, on voyait déjà poindre les signes d'un affaiblissement de cette nationalisation des
élections locales. C'était lesquels alors ces signes?
Eh bien, des signes, on avait déjà l'apparition de listes citoyennes, hein, dès 2008 et 2014, et puis surtout on avait une recomposition des systèmes d'alliances qui n'étaient pas forcément faites en fonction de ce que disaient les partis à l'échelle nationale. On avait le MoDem qui, par exemple, pouvait, dans une ville, s'allier avec la gauche, dans une autre avec la droite. On avait une première dislocation des listes d'Union de gauche. Donc, on voyait déjà pointer des signes d'une évolution et d'un affaiblissement de l'emprise des partis sur ces scrutins.
Alors, j'imagine qu'effectivement, après l'élection d'Emmanuel Macron, comme on l'a dit, mais également après le mouvement des Gilets jaunes, un an de mouvement des Gilets jaunes, Raphaël Chalier, vous avez travaillé sur un gros bourg rural de Lorraine pour votre travail sur les Gilets jaunes et la politisation. Et vous vous êtes aperçu effectivement que cette question qui a été abordée par vos deux prédécesseurs, et en particulier par Vincent Béal, bien, était de plus en plus active, pourrait-on dire, aujourd'hui.
Je confirme effectivement pleinement le constat des collègues. Et je vais me permettre au passage d'inverser un petit peu la problématique, la manière dont est posée la question. Les partis sont-ils les bienvenus? Moi, ce qui m'a frappé spontanément, enfin, j'ai eu envie d'inverser la question en disant... Les citoyens sont-ils les bienvenus dans les partis, notamment ceux de la majorité modeste de la population? De toute évidence, non. Quand on regarde au sens où la coupure vis-à-vis des partis, des professionnels politiques, elle est profondément adossée à une coupure sociale. Ça se voit de manière flagrante quand on regarde les professions, les origines socio-professionnelles des parlementaires, des députés, des sénateurs. Quand on descend dans des instances plus intermédiaires, la représentativité est plus forte, vous avez plus de personnes employées, ouvriers, mais ça, vous avez déjà un tri social qui se fait, y compris dans les conseils municipaux. Ou bien souvent, ce sont les fractions supérieures de l'espace local, processus qui va être encore renforcé par les mutations, notamment en communautés de communes, qui exigent des compétences beaucoup plus techniques et qui vont contribuer à exclure les plus modestes. C'est une des échelles parmi d'autres. Vous avez aussi, au sein des partis, un fonctionnement très systématiquement élitiste dans ses pratiques, depuis le fait d'aller à une réunion jusqu'au fait de se porter candidat en passant par le fait de participer à un congrès. Tous ces dispositifs impliquent des propriétés particulières, socialement situées, qui sont celles des groupes privilégiés.
Et alors, si on descend plus bas, parce que tout de même, la circulaire Castaner, par exemple, qui a fait beaucoup de bruit les 15 derniers jours, cette circulaire qui donc voulait enlever le marquage, le nuançage donc des candidats à partir du moment où on était en dessous de 9500 habitants. Si on descend plus bas, cette question-là est une question différente. J'imagine que dans beaucoup des bourgs sur lesquels vous avez travaillé, ou des grosses villes ou des petites villes de Lorraine, eh bien, on trouve effectivement une variété de populations, une variété d'origine sociale plus grande que dans ce que vous venez de décrire à l'instant même, Raphaël Chalier.
Plus grande qu'à l'Assemblée nationale, c'est une évidence. Après, en milieu rural, il y a des logiques spécifiques. Vous avez une distance générale aux politiques au sein des milieux populaires. Et les milieux populaires sont notamment éloignés des centres décisionnaires, éloignés des grandes villes. On les retrouve dans les banlieues, dans les territoires ruraux, dans le périurbain, et ainsi de suite. Mais vous allez aussi effectivement avoir, plus spécifiquement en milieu rural, des logiques plus fines qui vont entrer en compte et qui vont nuancer l'idée de liste citoyenne. Par exemple, les processus d'interconnaissance. Dans les territoires ruraux, les bourgs et encore plus dans les villages, il y a un processus essentiel dans la politisation, c'est le fait que tout le monde se connaît. Ouais. Pour reprendre le constat communément fait par les habitants, ce qui va sécréter un rapport très particulier aux politiques. Je donne qu'un exemple, tiré de l'un de mes terrains principaux en milieu rural. J'ai suivi des militants du Front National, à l'époque, dont certains ont été élus. L'image qu'on a de l'élu municipal du Front National, c'est un élu très antagoniste. C'est les époux Maigret, à Vitrolles, Fabien Gollman. Dans ces bourgs ruraux, vous aviez des candidats Front National qui serraient la main de l'opposition de gauche, faisaient la bise aux personnes de la majorité de sensibilité de droite, qui globalement était dans une stratégie de composition avec les autres forces
et
sur
pourtant,
la fonde
interconnaissante. Et pourtant, ici en Alsace, où 50% des voix se sont portées sur, dans certains villages ou dans certaines villes, se sont portées sur le Rassemblement National aux élections européennes, beaucoup de candidats ne vont pas se présenter. Il n'y aura pas assez de gens pour pouvoir représenter le Rassemblement National dans toutes les villes.
Effectivement. C'est un paradoxe du Front. C'est un paradoxe du Rassemblement National et c'était déjà un paradoxe du Front National. Autant c'est un parti qui arrive à agréger des scores importants aux scrutins nationaux, autant ça reste à ce stade un appareil assez faible qui peine à s'ancrer au niveau local et à mobiliser surtout un appareil de cadres locaux.
Alors, on peut écouter un extrait d'une série d'émissions qui ont été faites sur France Culture il y a 2 ans maintenant autour de la question du métier de maire, pourrait-on dire. C'est le témoignage d'un maire d'une petite commune rurale dans le sud-est de la France et sur la difficulté d'exercer son mandat.
Quand vous voyez le quotidien des maires des petites communes rurales, mais c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, il y a une hypocrisie totale en France. Hein. On veut que les maires soient responsables, compétents, disponibles et bénévoles. Et des compétences, je peux vous assurer qu'il en faut. Et j'ai vu en plus l'évolution en 10 ans. Hein. C'est de plus en plus complexe. Évident. Mais en plus, il faut faire du projet. Enfin, on a envie. En tout cas, moi si je suis élu, c'est pour faire des projets. C'est pas pour gérer le quotidien.
Ouais. Ben
non. Moi, mes indemnités pour mes déplacements, etc., c'est 460 euros net. Une fois que j'ai enlevé ma retraite complémentaire, c'est 460 euros. Donc on fait comment ? Automatiquement, les maires sont des retraités en France.
Alors voilà, c'est un extrait d'une série d'émissions de France Culture signée Martine Abbat et Asya Ralid il y a un peu plus d'un an maintenant sur France Culture, mais qui nous dit bien effectivement que selon les niveaux, et vous venez d'évoquer cette question de niveau de municipalité, c'est-à-dire la grandeur de ces municipalités, on n'a pas la même préoccupation. Le rural, c'est différent. Raphaël.
Complètement, au sens où déjà, en milieu rural, la politique est beaucoup plus encastrée dans des enjeux ordinaires. Le symptôme la manifestation la plus évidente, c'est le fait qu'en milieu rural, la norme, il me semble, là-dessus je parle sous le contrôle de mes collègues, c'est très souvent les listes d'intérêts citoyens. Mmh. Où le jeu partisan n'existe pas.
Et qui d'ailleurs ont poussé l'association des maires ruraux à promouvoir cette circulaire Castaner qui ensuite a été défaite puisque c'était à leur demande que cette circulaire, disant qu'il y avait des nuançages politiques à partir de 9500 habitants et qu'en dessous on pouvait s'en passer, eh bien ça a été retoqué par le Conseil d'État et c'était à la demande de l'association des petits maires ruraux, des maires ruraux, pas des petits maires ruraux évidemment. Oui, Raphaël Chalier.
Les maires de ces espaces ont souvent l'impression et ont souvent comme discours, ce qui s'est vu aussi au moment du mouvement des Gilets jaunes, d'avoir une connexion particulière vis-à-vis de ce qu'ils appellent le terrain, la base. Mmh. C'est-à-dire que les logiques sociales prime pour eux aussi
sur les logiques
partisanes.
Oui, vous êtes d'accord avec cette analyse, Sébastien Michon, vous qui travaillez sur la professionnalisation de la politique, cette idée qu'on ferait de la politique sans être professionnel parce que on veut servir l'intérêt commun, l'intérêt général, etc. Et puis ensuite, on abandonnerait parce qu'on a autre chose à faire.
Pour les petites communes, il est évident que les maires n'en vivent pas.
pour les très petites communes, les indemnités sont pas à des niveaux très élevés. On est dans des situations totalement différentes dans les grandes villes. Dans les grandes villes, les indemnités sont assez élevées, y compris les indemnités d'adjoints. Il y a les intercommunalités qui permettent de cumuler des fonctions rémunératives. Et puis, il y a aussi tout un tas de fonctions satellites qu'on tend à occulter ou qu'on ne voit pas comme ça.
Les présidences de CIVOM, de CIVER, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle encore comment, comme ça, mais enfin, les syndicats intercommunaux, par exemple.
Les sociétés économiques mixtes, l'office HLM, les parkings. On découvre, en regardant attentivement les fiches de certains élus, on découvre des rémunérations qui sont officielles, hein, mais que finalement, on n'aurait pas décelé avant. Quoi.
Alors, tout de même, quand je vous ai eu au téléphone la semaine dernière pour préparer cette émission, vous me disiez il faut se méfier, Sébastien Michon, de cette impression que nous donne justement la disparition de ces listes partisanes dans la plupart des villes de France. Parce que, en fait, si on y regarde de plus près, il y a tout de même des professionnels de la politique, mais qui n'osent peut-être pas le dire, qui n'osent pas montrer leur étiquette partisane. Vous voulez nous expliquer ça ?
Il n'est pas de bon ton de se présenter comme professionnel de la politique. C'est pas une identité extrêmement sexy actuellement et depuis quelques années. Et donc forcément, vu que les partis n'ont pas non plus, sont pas en odeur de sainteté, un certain nombre d'acteurs politiques ont tendance à minimiser des expériences politiques telles que une expérience de collaborateur politique pendant plusieurs années, et au contraire à mettre en avant des investissements associatifs, par exemple.
Vous voulez dire que si on était collaborateur parlementaire, par exemple, d'un député ou d'un élu, on va pas le dire, mais on va préférer dire qu'on est président de l'association X ou Y, c'est ça.
Exactement. Exactement. Ou que on a été chef d'entreprise parce qu'on a pu monter ou essayer de monter une entreprise pendant quelques mois, ou qu'on a été cadre du privé pendant quelques mois à la fin de ses études.
Mais ça veut dire qu'il faudrait, si en bon citoyen que nous sommes, avant d'élire des gens sur les listes municipales, aller regarder un peu derrière la biographie de chacun, non pas pour dire qu'il triche, mais simplement pour montrer que l'on valorise à un moment ou à un autre tel ou tel type d'expérience, soit politique, soit citoyenne, c'est ça ?
C'est ça. Alors après, on peut aussi découper le type d'expérience citoyenne. Mais ce que je constate, moi, en regardant les listes sur les grandes villes, c'est très concrètement, on voit qu'il y a une part de novices de la politique qui est non négligeable.
Des vrais novices.
Des vrais novices. Mais qu'il y a aussi quelques faux novices. C'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais été élues précédemment, mais qui ont pu passer plusieurs années à vivre de la politique en tant que collaborateur politique auprès d'un maire, dans un cabinet d'un maire, d'un cabinet d'un président d'une région ou d'un département, ou comme attaché parlementaire d'un député ou d'un sénateur. Et ces personnes sont souvent très actives dans un parti politique, le parti politique souvent qui a investi la liste, et ce sont des personnes qui ont véritablement un profil de pur professionnel de la politique qu'on cherche plutôt
à gommer
et à cacher.
Oui, Vincent Béal, il y a tout de même aussi un autre point, c'est que beaucoup de ces listes, citoyennes ou pas d'ailleurs, sont des panachages. Mais ça, c'est habituel généralement au niveau des municipales. Je voyais dans le site, sur le site de France 3 ici, le maire de Vissembourg qui dit il faut, pour une ville comme Vissembourg, il faut 29 personnes sur sa liste. Il n'y a pas 29 encartés. Donc on est bien obligé à un moment ou à un autre d'aller chercher un peu à droite, un peu à gauche, des gens de la ville qui voudraient bien participer à la liste que l'on est en train de créer, Vincent Béal.
Oui, je rejoins ce qui a été dit. Hein. On a souvent affaire à des listes qui sont hybrides, et ce qui montre bien que les partis politiques, même s'il y a une prise de distance vis-à-vis de ces partis, ils sont pas totalement morts non plus et ils restent présents à d'autres niveaux hein, dans ces élections. Alors ils restent présents très fortement sur le contrôle des investitures quand les listes sont étiquetées d'un parti, mais ils restent présents aussi dans le soutien organisationnel ensuite, dans tout un tas d'activités autour.
Ça veut dire que si on se présente, si on crée sa liste, si c'est une liste citoyenne, il faut tout de même je sais pas, des jeunes d'un parti avec lequel on a des accointances qui vont tracter, des gens qui vont organiser, des personnes qui vont organiser la publication ou l'imprimerie pour les tracts et pour les affiches. Enfin, il faut une logistique qui nécessite d'avoir un support, disons, de parti.
Ben, en tout cas, ça aide. Ça peut être un atout important. Et au-delà de ce support, tout simplement, les alignements entre groupes sociaux et partis, hein, qui, alors, on dit beaucoup que les partis sont aujourd'hui désencastrés socialement.
Il faut expliquer à nos auditeurs ce que ça signifie dans le langage de la science politique que d'être désencastré.
Alors, un parti qui est désencastré socialement, c'est un parti qui n'est plus affilié à un groupe social ou professionnel particulier, comme ça pouvait être le cas auparavant avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste. Socialiste également, avec plus les employés et les classes moyennes du pôle culturel. Donc effectivement, on a ce désencastrement social des partis, mais même si ce mouvement est fort, il y a quand même des alignements entre groupes sociaux et partis qui restent importants, et ça, c'est des ressources que les candidats, certaines listes, souhaitent mobiliser.
18h40 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. Nous sommes en direct de France Bleu Alsace à Strasbourg pour évoquer la question de la politisation ou de la dépolitisation lors de ces élections municipales en Alsace, mais aussi ailleurs.
Ce serait une chanson parfaite, un truc profond pour tous les gens de la planète. Mettons. Musique, ce serait le battement du cœur des hommes à l'unisson un instant, la belle besogne. Les paroles, elles sont faciles. Regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre. Les paroles, elles sont faciles. Regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre. Les paroles, elles sont faciles. Regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous avez reconnu Alain Souchon, les trois mots dans la pierre, ils sont au fronton de toutes nos mairies, bien évidemment, et nous sommes en débat ici à Radio France, à France Bleu, à Strasbourg, pour évoquer la question de la politique, de la politisation, de la dépolitisation de nos futurs élus à l'occasion des élections municipales. Sébastien Michon, si on s'intéresse à cette question-là, c'est qu'on se dit peut-être aussi que, et c'est souvent le cas, une décision qui a été prise bien en amont, à savoir la question de séparer le mandat de député et de maire, par exemple, peut avoir eu des conséquences sur ces municipalités-là. C'est-à-dire que, tout compte fait, quand on se présentait comme député, on se présentait avec l'investiture d'un parti et ensuite, naturellement, on la reproduisait dans sa liste que l'on faisait pour la mairie. Maintenant que le cumul des mandats est interdit, eh bien, c'est une question différente qui se pose.
Pas nécessairement penser que le mandat de maire suivait le mandat de député.
Précédait, enfin ça pouvait être dans la...
Souvent, le mandat de maire précédait
bien sûr,
le mandat
de député. Mais pour pouvoir un jour peut-être devenir député, voilà, il fallait avoir l'investiture d'un parti. C'était plus pratique.
Oui, clairement.
Et cela, vous êtes d'accord de votre côté, Raphaël Chalier, sur cette question de cette alliance entre député et maire qui est rompue désormais dans la vie politique française et qui peut-être aurait des conséquences sur justement la multiplication de ces listes citoyennes que l'on connaît aujourd'hui?
Effectivement, pendant très longtemps, la municipalité, c'était la constitution du fief, qui ensuite allait servir pour partir à la conquête plus largement des électeurs. Après, évidemment, mais là, c'est aussi... Il y a différents processus, mais on peut aussi se demander si le niveau de professionnalisation plus accru ne fait pas que, tout comme le fait qu'il y a déjà un premier tri qui se fait pour accéder au conseil municipal, un tri social, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième tri qui fait que pour accéder aujourd'hui à la profession, mais ça, je renverrai plus à mes collègues, Est-ce que pour accéder au métier de député, ce ne sont pas encore des compétences d'un autre niveau, beaucoup plus gourmandes en ressources sociales, en capital.
Qu'est-ce que c'est des compétences gourmandes en ressources sociales? J'aime bien l'expression, mais c'est quoi des compétences gourmandes en ressources sociales selon vous, Raphaël Chalier?
C'est pouvoir. Alors moi j'ai un biais. J'ai un biais qui est lié au fait que j'étudie beaucoup ces processus par en bas, à l'échelle des simples citoyens, des militants bénévoles, des petits élus locaux. Du coup, je vois rarement les purs professionnels. Ouais. Après, de ce qui se dessine sur mes terrains, ces ressources, c'est la capacité, c'est des ressources qui ont été mises en évidence, par exemple, par Daniel Gaxi, il y a bien longtemps, la capacité à parler en public, à parler selon... à apparaître, à mettre en scène une certaine posture du corps, la capacité à maîtriser tout un ensemble de compétences héritées de l'espace scolaire, au sens où être candidat, ça implique à la fois de brasser un peu de juridique, un peu d'économique, éventuellement, si c'est dans un cadre plus partisan, de s'inscrire dans des filiations qui peuvent impliquer des dimensions presque philosophiques, historiques, et ainsi de suite. Bref, de multiples compétences. Qui sont socialement situés.
Oui, vous êtes d'accord, Sébastien Michon ?
Il y a aussi beaucoup le positionnement, et c'est là où on revient sur les partis, il y a le positionnement dans le parti, et donc être coopté par l'ancien député qui a une forme de patronage, installé souvent...
Il faut rappeler que ce soir commence Baron Noir, la série sur Canal+, et pour la troisième saison, effectivement, que ça nous raconte un peu ces questions, justement, de parrainage, etc.
Voilà, et donc il y a tout de même beaucoup d'élus qui ont accédé à des circonscriptions dans l'ancien monde, en tout cas, mais c'est toujours à l'heure actuelle vrai, qui ont accédé à des postes parce que finalement elles ont été cooptées par des dominants dans le parti, en tout cas des dominants localement, mais voire aussi et surtout nationalement.
Raphaël Chalier, on a évoqué le travail que vous avez mené auprès dans une municipalité donc où il y avait un fort taux de gilets jaunes dans la région Lorraine. Qu'est-ce que ça a changé, cette vision? D'abord, est-ce que ça a repolitisé des gens? C'est-à-dire, est-ce que simplement l'engagement auprès des gilets jaunes a permis à des gens qui n'étaient plus intéressés par la politique de s'y intéresser à nouveau? Et dans quel sens?
Alors, très fortement, au sens de s'intéresser à la vie de la cité, de mettre en question l'ordre social, de dénoncer les injustices. Je donne des exemples très pratiques. Alors qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement qui se mobilisait contre une taxe présentée comme répondant à des enjeux écologistes, parmi les Gilets jaunes ont rapidement émergé des discours, par exemple, sur la critique des supermarchés. L'idée de s'autonomiser des supermarchés, l'idée de justice...
Ça, vous l'avez entendu là où vous étiez,
oui.
En Lorraine.
Des oppositions, concrètement. En gros, il y a très vite chez les Gilets jaunes, y compris des milieux populaires ruraux, l'idée, on n'est pas contre l'écologie. Mais ce n'est pas juste que ce soit les plus petits qui payent. En ce sens, le mouvement des Gilets jaunes, il a été très politisant. Au sens de créer, de façonner la conscience sociale dans un certain sens, de mettre en question ce qui semblait aller de soi. La politisation partisane, le sens où on l'entend, c'est un autre débat. Et les effets sont beaucoup plus contrastés et sont loin d'être mécaniques.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas une transcription immédiate, par exemple, dans des candidatures aux municipales, de ceux que vous, ou de celles que vous avez vues sur les ronds-points en Lorraine, par exemple ?
Le phénomène est beaucoup plus large. Là, je vais décliner la question en différentes sous-questions. Il est, au vu de la dynamique des Gilets jaunes, qui est une dynamique de mouvement social, il est assez absurde d'imaginer qu'il y aurait un débouché politique immédiat. Les mouvements sociaux ne se transforment jamais, ne se convertissent pas en débouchés politiques partisans. Ça n'existe pas, et surtout pas actuellement. D'autant plus dans le cas d'un mouvement comme les Gilets jaunes, qui était un mouvement très composite, avec différentes composantes plus ou moins politisées et d'appartenances électives plus ou moins variées, les personnes qui venaient sur le rond-point ne venaient pas pour des enjeux partisans. Ce n'était pas la question. Ils venaient autour d'enjeux de justice sociale.
Alors, néanmoins, il y a des contre-exemples à ce que vient de dire Raphaël Chalier. On sait par exemple qu'en Espagne, la montée du mouvement Podemos était issue du mouvement des places, qui était un mouvement de contestation sociale qui s'est transformé plus ou moins, on a un mouvement politique qui s'est développé, Vincent Béal.
Oui, je pense que ce que vient de décrire Raphaël à propos des Gilets jaunes hein, fait partie d'un mouvement d'ensemble hein, de relocalisation de la politique.
Et relocalisation, c'est-à-dire de descente vers le bas avec un intérêt pour la question municipale.
Avec un intérêt pour la question municipale et avec un intérêt aussi, une volonté d'entrer dans la politique par des questionnements sur des situations concrètes et pas uniquement par un codage idéologique ou partisan.
L'urbanisme, voilà. La question d'un supermarché ou pas de supermarché, etc. etc.
Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve trouve pas uniquement en France, donc en Espagne, vous l'avez bien dit, on le retrouve aussi aux États-Unis, dans certaines villes moyennes, hein, je pense à la ville de Jackson dans le Mississippi, où un maire démocrate, alors on voit que c'est pas forcément en dehors des partis, hein, ça dépend des contextes nationaux, s'est fait élire en 2017 hein, autour d'un agenda municipaliste et de transformation.
Qu'est-ce que c'est le municipalisme? Parce que c'est une expression là aussi utilisée par les politistes que vous êtes, mais qu'on ne connaît pas forcément, c'est quoi comme mouvement le municipalisme?
Alors c'est un mouvement qui est à la fois ancien, qui a des racines théoriques anciennes. Hein. On peut remonter à Murray Bookchin, hein, qui était un philosophe libertaire qui avait essayé de théoriser ce mouvement-là pour trouver des solutions à ce qu'il voyait comme étant une crise à la fois sociale et environnementale dès les années 60. Mais il n'y a pas de définition très claire, stabilisée de ce qu'est le municipalisme. Et on a derrière cette idée vraiment des expériences extrêmement variées, extrêmement différentes.
Mais c'est l'exemple que tout de même, le local, au niveau local, on peut résoudre des choses qui sont à notre portée d'une certaine façon.
Alors, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. En tout cas, ce que montrent les expériences françaises et les expériences à l'étranger, c'est que par le local, on peut peut-être permettre à certains citoyens de réapprivoiser la politique, d'inventer de nouvelles manières de faire, hein, la désignation des candidats dans des assemblées ouvertes, de monter en compétences aussi, et ça c'est très important sur tout un tas de questions. Mais après, au-delà de ça, on voit qu'il y a des limites à cette gestion uniquement locale. Quand on regarde quels sont les enjeux principaux aujourd'hui de la gestion locale, de la gestion urbaine dans les villes moyennes, dans les grandes villes, ce sont des enjeux qui sont des enjeux en termes de redistribution, des enjeux en termes de gestion des grands services publics, des enjeux en termes également
de... Et qui sont pris souvent en charge par les intercommunalités, par exemple.
Exactement.
Et ce que disait tout à l'heure Sébastien Michon, c'est tout de même que ces intercommunalités nécessitent un niveau de compétence qui filtre justement les militants venant de la base et qui les empêche peut-être d'accéder justement à ce type de gestion au niveau de l'intercommunalité. C'est-à-dire que ça rentre un petit peu en contradiction avec ce que vous décrivez du municipalisme, de la volonté des citoyens de reprendre en main leur propre destin.
C'est toute la complexité de la question, parce que dans le municipalisme, il y a cette idée de retourner à une échelle locale, mais en même temps, les enjeux que voudraient traiter ces listes sont souvent à cette échelle intercommunale, qui en France, et c'est pas forcément partout pareil à l'étranger, est extrêmement contrôlée par les maires. La plupart des décisions qui sont prises à l'échelle intercommunale se font au bureau des maires, qui est un bureau dont les débats ne sont pas publicisés. Et surtout, les travaux de sciences sociales sur l'intercommunalité nous montrent que c'est des espaces politiques qui fonctionnent au consensus et qui ne sont pas marqués par des clivages idéologiques ou partisans forts.
Sébastien Michon, ça gommerait justement la question des intercommunalités, gommerait les ancrages partisans par exemple?
Ah, clairement, les travaux sur l'intercommunalité montrent qu'il y a une forme de dépolitisation de l'action publique dans ces arènes-là.
Ce qui rend très complexe notre discussion, parce que ça veut dire qu'à ce niveau-là, dépolitisation, gommage des étiquettes, capacité de discuter entre élus d'un certain niveau qui ne veulent plus revendiquer des clivages partisans. Au niveau le plus bas, pourrait-on dire, tel qu'il est décrit par Raphaël Chalier, volonté aussi de gommer, mais pour d'autres raisons. Et donc, au bout du compte, ce que l'on observe aujourd'hui serait le fruit de diverses sources différentes, c'est ça ?
Oui, alors là, il y a un traitement en fait des dossiers où il y a des alliances qui se font et faut aussi voir que on a souvent une grande ville. Si on prend par exemple l'Eurométropole, puisque on est à Strasbourg, il y a Strasbourg, grosse entité, et puis autour il y a un ensemble de villes moyennes et de petites villes. Et forcément, il y a des alliances qui se font aussi entre les petits et le gros, et puis entre certains élus, etc. Donc il y a des petits jeux qui se font et qui dépassent. Alors, tout le monde ne peut pas toujours s'associer, mais sur certaines questions, sur certains dossiers qui peuvent être très techniques, il y a effectivement des alliances qui dépassent les alliances partisanes habituelles.
Raphaël Chalier, sur ces questions, qu'en pense justement, par exemple, de ces intercommunalités qui semblent un peu éloignées, de plus en plus éloignées des citoyens par le mode de désignation de ceux qui les peuplent? Qu'en pensent ceux que vous avez rencontrés sur les ronds-points lorrains des Gilets jaunes, c'est-à-dire cette distance de plus en plus grande, je suppose, qu'ils peuvent ressentir?
La question de l'intercommunalité, elle n'était pas au centre des discussions, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un effet, ce que certains collègues appellent un effet de cadrage, c'est-à-dire que les enjeux immédiats du débat public n'incitaient pas avant tout à se saisir de cette question. Mmh. Il faut remonter dans le temps. À cette époque, on était plus d'un an avant les municipales. Les enjeux se focalisaient d'abord sur cette question des déplacements, de la voiture, qui en milieu rural est un enjeu absolument vital, au sens où dans des territoires assez relégués où les services publics ont tendance à être justement reconcentrés dans des plus grandes villes où les usines ferment ou ainsi de suite avec tous les effets en cascade que ça a, la voiture n'est pas un choix. Du coup, ensuite, vous avez eu un deuxième temps de politisation autour d'enjeux qui étaient aussi débattus plus généralement au sein du mouvement. La question de la justice fiscale, la question de l'ISF, et ainsi de suite, la question des violences policières, oui, qui a posé énormément de questions. Du coup, les questions plus techniques, c'est pas la question de l'interco qui a été le plus posée. À la rigueur, on a plus posé, par exemple, du grand débat, ou alors des européennes qui allaient venir à l'époque.
Et puis, parce qu'il faut quand même préciser qu'effectivement, le principal visé des discussions des Gilets jaunes, c'était le gouvernement et c'était le président de la République. Donc, en sautant les étapes qui conduisent justement de la municipalité à la présidence de la République, on s'intéressait directement à celui qui était au plus haut de la hiérarchie.
Effectivement. D'ailleurs, au début, enfin, il faut noter, je termine là-dessus, qu'au moment pendant le mouvement, il y a une évolution de la position des maires qui, au départ, globalement, les associations de représentation des maires sont plutôt critiques vis-à-vis du gouvernement. Mmh. Et ensuite, il y a un basculement progressif qui se fait avec une dissociation plus forte vis-à-vis des Gilets jaunes et une participation au grand débat. Mais au début du mouvement, chez les Gilets jaunes ruraux, l'idée, c'était globalement les élus locaux. Ils sont un peu comme nous, c'est pas eux le problème.
Oui, et sur ce point, Sébastien Michon, c'est-à-dire sur cette adresse directement au président de la République, qui d'une certaine façon relativise les autres échelons, pourrait-on dire, de la vie politique.
Et pourtant, il y a beaucoup d'échelons et il y a des compétences.
Il y en a de plus en plus avec les intercommunalités.
Et c'est ça. Et il y a une complexité, en fait. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de suivre le champ politique. Mais il y a une véritable complexité, en fait, entre toutes ces institutions et forcément, tout le monde ne repère pas forcément à quoi sert tel ou tel élu, tel ou tel niveau d'action publique. Et d'ailleurs, ne serait-ce qu'entre l'intercommunalité et la municipalité, beaucoup de gens ne font pas la différence.
Oui, sur ce point, Vincent Béal.
Oui, je pense que c'est important de raisonner en termes d'imbrication des échelles. On a eu un discours un peu dur sur l'intercommunalité.
C'est presque un discours de géographe que vous êtes en train de tenir là.
Ouais, bah, peut-être un peu, mais c'est vrai qu'on a eu un discours dur sur l'intercommunalité et à raison, parce que l'expérience montre que ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années en France n'a pas été très démocratique. Mais si je prends un exemple tout simple, hein, l'exemple des villes en déclin, dans ces villes-là, on a souvent un centre qui concentre les difficultés et des périphéries qui sont elles beaucoup plus riches, qui ont profité des politiques d'accession à la propriété pour attirer des classes moyennes. Et donc là, si on n'a pas l'outil intercommunal, on est vraiment en difficulté pour résoudre des enjeux importants. Donc je pense, et pour en revenir à Bookchin et à d'autres théoriciens radicaux, qu'on peut imaginer aussi des confédérations de communes ou des arrangements institutionnels à une échelle plus vaste pour régler ces problèmes-là.
Merci à tous les trois. Merci à vous, Vincent Béal, Sébastien Michon et Raphaël Chalier, de nous avoir rejoints dans les studios de Radio France, France Bleu Alsace, ici à Strasbourg. Merci à d'ailleurs toute l'équipe de France Bleu Alsace qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur, et à Pierre Schott en particulier qui était à la technique. Sylvain Latu était à la technique à Paris et la réalisation était signée à Sierra Lid. Et comme d'habitude, toute l'équipe du Temps du Débat, Chloé Cambrelin ici même, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prisé à Paris. Merci à toutes et à tous.